La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête.
Oh. Oh. Tête, 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 tête.
Carré.
Indépendamment de notre conscience, il existe des relations très puissantes entre le psychisme et le corps. Ce pouvoir de l'esprit sur le corps bouscule et interpelle car il échappe souvent à notre jugement rationnel avec la guérison qui semble comporter une part d'inattendu et d'inexplicable, une part de mystère qui dérange la médecine occidentale justement parce que la science ne parvient pas à l'expliquer. Le médecin psychiatre Patrick Clairvoy s'intéresse au contraire à ces phénomènes pour essayer de comprendre ce qui gouverne ces mécanismes. Il publie les pouvoirs de l'esprit sur le corps chez Odile Jacob. Il est mon invité dans un instant et il répondra à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui la réforme du bac qui inquiète les chercheurs en sciences de la vie et de la terre.
Oui Mathieu, des biologistes, des climatologues, des médecins, dont plusieurs prix Nobel, prennent la plume, pour défendre les sciences naturelles au lycée et on en discute avec le microbiologiste Marc-André Sellos.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupin, consacrée aujourd'hui à la psychose des sèches-mains à air pulsé. Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée par Chantal de Montagny avec Anna Massardi.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les pouvoirs de l'esprit sur le corps, c'est un livre qui sort chez Odile Jacob et dont vous êtes l'auteur Patrick Clairvoy. Bonjour.
Bonjour à vous.
Bienvenue,
à
vous. Vous êtes médecin psychiatre et vous vous intéressez depuis longtemps à ces espaces inexplorés liés aux phénomènes psychiques. Un sujet qui fait grincer des dents, hein, et surtout celle de la médecine.
Non, il y a une réticence des médecins à en parler parce qu'il peut y avoir des postures rigides du point de vue des autorités universitaires et des gens comme Alexis Carrel, par exemple, qui jeune, voit un miracle sous ses yeux à Lourdes. Et donc, il y a quelque chose qui se produit, un événement de corps qu'il saisit et il a peur d'en parler, de publier là-dessus, par peur d'être rejeté. Mais aujourd'hui, avec toute l'imagerie médicale et toutes les avancées de la science qui nous montrent ce qui se passe dans le corps devant ces phénomènes inexplicables de guérison, on peut effectivement se réapproprier tout un savoir et réfléchir et acquérir des connaissances là-dessus.
Pour autant, on est loin d'avoir tout compris encore, même avec l'imagerie.
Mais Dieu soit loué, ça veut dire qu'on a encore plein de choses à apprendre.
Allez, on va en discuter avec vous dans un instant avec un certain nombre d'exemples qui illustrent ces pouvoirs de l'esprit sur le corps. Et les auditeurs nous rejoignent avec les messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. La réforme du bac et du lycée n'est pas encore finalisée par le gouvernement, mais elle inquiète déjà beaucoup les scientifiques et plus particulièrement ceux des sciences de la vie et de la terre, un collectif de chercheurs en biologie dont plusieurs prix Nobel signaient mercredi une tribune dans le journal Le Monde pour dénoncer la mise en péril du socle de connaissances en sciences naturelles pour les plus jeunes. Axel Villard, on en discute avec celui qui lutte depuis septembre justement pour faire entendre les SVT dans cette réforme.
Oui Mathieu, nous sommes avec le microbiologiste Marc-André Sellos. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, également professeur à l'université de Gdansk en Pologne, et vous publiez cette tribune avec des grands noms de la science française, Axel Kahn, Jules Hoffmann, Françoise Barré-Sinoussi, alors que les décrets sont sur le point d'être signés. Vous avez encore espoir de faire bouger les choses?
Plus tellement, mais on a l'espoir de marquer les idées, les consciences, pour que la prochaine fois, une telle débâcle ne se produise pas.
Alors, quels sont les points que vous qualifiez de débâcle dans cette réforme et concernant les SVT?
On est face à un gouvernement qui nous a préparé à la transition énergétique, à la transition environnementale, et on ne voit pas dans la formation des plus jeunes ce qui va leur permettre de s'outiller pour gérer un avenir où, d'une façon vraiment invasive, au contact du quotidien, on voit les produits de la biologie et de la géologie qui envahissent nos marchés, nos supermarchés, notre vie, nos choix alimentaires, notre santé. Enfin, on a un besoin croissant, effectivement, que le citoyen de base soit capable de se repérer dans cette complexité. Et on est en train de lui enlever les outils pour ça.
Mais qu'est-ce qui va changer concrètement pour ceux qui n'auraient pas suivi un peu le déroulé de cette réforme? Qu'est-ce qui va changer pour les lycéens concernant la biologie?
Alors, il y a trois niveaux où il y a des changements qui peuvent être attendus. Déjà, au niveau du socle, on va se retrouver avec simplement, grosso modo, 30 minutes de sciences de la vie et de la terre par semaine. Ça veut dire que information de base, il n'y aura pas grand-chose. Ensuite, dans les jeux d'options, on a des inquiétudes, parce qu'on n'est pas un bon biologiste sans maths et sans physique. je suis pas en train de défendre une discipline, mm-hmm. mais la construction d'un esprit. Et derrière ça, il y a aussi des éléments d'interdisciplinarité. Or, dans le choix de deux matières dominantes en terminale, eh bien, on prendra SVT maths ou SVT physique, ce qui est une sorte de mutilation pour un biologiste, puisqu'on n'aura que deux choix. On pourra avoir que les maths ou la physique en plus. Et puis, la dernière chose qui est très inquiétante, c'est qu'on n'a pas vraiment d'assurance sur de pouvoir poursuivre à faire des travaux pratiques, c'est-à-dire en petits groupes accompagnés, de faire ce qui est le cœur de nos disciplines, le travail d'observation et de déduction à partir du réel.
Qu'est-ce que vous craignez finalement à terme pour la formation justement des plus jeunes et ceux qui voudraient aussi se dessiner vers des carrières scientifiques ensuite ?
Bah, ils ont une formation évidemment renforcée en sciences humaines parce que là il y a une balance qui a été, un curseur qui a été poussé dans ce domaine-là et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais d'un autre côté, moi j'ai peur qu'en tant que citoyen, ils ne soient pas capables de gérer des défis comme affronter par exemple les fake news et les rumeurs qui sont de plus en plus nombreuses et elles se développent en fait sur l'absence de jugement critique et d'outils pour les juger. J'ai donc peur que le citoyen soit pas non plus capable, quand il fait un achat, de voir les implications que ça a sur les ressources naturelles ou sur les ressources génétiques. Ça, c'est pour l'aspect citoyen de base. C'est ce qui m'occupe le plus. Mais j'ai aussi un petit peu peur que, en attirant moins de gens vers ces disciplines-là, on ne fournisse plus la main-d'œuvre à une branche montante de l'économie qui représente quand même un tiers du CAC 40. Une branche montante de l'économie qui est la bioéconomie, l'économie de l'environnement, les technologies de l'environnement. Le ministère de l'Agriculture estime que la bioéconomie devrait générer 100 000 emplois dans les 8 prochaines années. Et on va aller les chercher ailleurs, ces emplois ?
Mais justement, vous parliez des options et vous disiez la majorité des lycéens vont choisir maths, physique. Pourquoi avoir peur que les lycéens ne choisissent pas la biologie ?
Moi, j'ai peur qu'ils n'en aient pas eu assez en amont pour faire ce choix, car c'est après avoir goûté quelque chose qu'on en apprécie le goût. Hein. Enfin, si c'est bien enseigné, évidemment. Et puis, l'autre chose qui m'inquiète, c'est que on sait très bien qu'on est dans un monde où, et ça va pas disparaître du jour au lendemain avec la réforme, d'ailleurs qui est une réforme du contenu des programmes du lycée plus qu'une réforme du bac, les réflexes de sélection sur les maths et la physique vont pas disparaître demain. Si demain je veux faire une carrière vers une grande école ou si je veux avoir la main sur mon avenir, j'ai plutôt intérêt à prendre maths physique, je ferai toujours des sciences nat dans la ligne droite. Le risque, c'est que je ne serai pas aussi bien formé, mais je prendrai pas de risque socialement dans ce choix-là.
Dans le texte, vous expliquez que cette réforme va entraîner une perte de liberté des générations futures. Pourquoi ce terme liberté ?
C'est quelque chose à laquelle beaucoup, tous les signataires et beaucoup de gens qui nous soutiennent sont attachés. L'idée, c'est que quand on fait un choix, on est libre. Mais faire un choix, ça veut dire avoir les outils, le minimum de culture pour comprendre ce qui se cache derrière un téléphone portable ou derrière un produit laitier qu'on achète et un minimum de démarches, hein, d'outils méthodologiques pour non pas douter de tout et y penser une vague théorie du complot, mais être capable d'analyser ça et de dire, bon, bah voilà, plutôt ce yaourt-là que celui-là. Non, ce téléphone-là, il a un coût environnemental que je ne veux pas payer. Bref, la liberté, c'est de l'information. Et aujourd'hui, l'information, c'est surtout, c'est en très grande partie, une information scientifique.
Vous êtes professeur dans une université en Pologne, vous travaillez aussi au Brésil. Ce niveau de base en sciences naturelles, il est différent dans ces pays ?
Ah, alors c'est dur de juger parce qu'effectivement l'accès à l'université n'est pas aussi large. Et ça, on peut le déplorer d'ailleurs. Mais je vois très bien effectivement que mes étudiants ont une formation qui est tout à fait différente. Je dirais qu'il leur manque des sciences humaines, pour le coup. Le recul sur l'histoire ou des aspects philosophiques leur manque plus, si je peux faire une moyenne. Hein. Mais je vois bien qu'au niveau scientifique, ils ont plus ça dans la peau.
Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de la façon dont on considère les sciences dans notre pays et le peu d'empressement, au fond, pour les valoriser ? Enfin, ça se voit par des exemples comme celui-là.
Ben oui, et puis on avait aussi dressé un consortium de 11 institutions de recherche, 4 académies, 160 entreprises, dont certaines du CAC 40, pour le coup. On avait demandé d'être reçus par tout un tas de gens. Aucun parlementaire ne nous a reçus, par exemple.
Ça n'intéresse pas aujourd'hui la classe politique ?
Je pense qu'on a une classe politique qui est formée aux sciences humaines. Et moi, j'ai entendu quelqu'un me dire que lui, ça, il n'avait jamais fait de SVT et ça n'avait pas changé de sa vie. Bon, s'il en avait fait, il se serait rendu compte qu'on ne peut pas en juger tant qu'on n'a pas moi-même avec les SVT et moi-même sans les SVT.
Vous avez aussi reçu le soutien de certaines personnes sur cette antenne. On va écouter l'extrait d'une chronique de Nicole Ferroni dans la matinale
Ah, superbe celle-là.
Pour avoir été prof de SVT, je connais trop le danger du manque de science chez les élèves. Parfois, c'est très mignon quand ils demandent « Eh madame, il a fallu combien d'hommes pour entasser toutes ces montagnes ?» Mais quand, en troisième, pendant un cours sur le sida, une élève demande « Madame, en fait, pourquoi on leur donne pas des Actimel aux gens qui ont le sida ?» Parce que là, vous montrez les gens qui ont le sida, ils n'ont pas de défense naturelle, et Actimel, c'est pour les défenses naturelles. Et ben là, on se dit quoi ?« Hey, bonne idée, Julie ! Appelons vite le SIDAction pour leur suggérer un grand partenariat avec Danone. » Non, on se dit qu'on l'a échappé belle, et qu'elle a bien fait, Julie, de venir en SVT.
Voilà, c'était Nicole Ferroni le 21 février dans le 7-9 d'Inter.
Marc-André Sella, si jamais on veut vous soutenir, même si les textes sont presque signés, est-ce qu'on peut encore le faire d'une manière ou d'une autre ?
Oui, alors l'Association des professeurs de biologie et géologie, la APBG, a organisé un appel à soutien que vous pouvez trouver sur son site. Ça se trouve très facilement sur Internet, APBG. Et c'est une façon de faire, mais il faut aussi voter bien.
Merci beaucoup, ça c'est pour les prochaines élections. Déjà on s'y prend à l'avance, Marc-André Sellos, merci à vous, vous êtes microbiologiste et vous signez comme beaucoup de confrères cette tribune justement qui est sortie mercredi dans les pages du Monde. Merci à vous et Axel, à demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, vers des prises de sang sans piqûre, une start-up américaine a mis au point un dispositif pouvant prélever le sang sans douleur. 30 micro-aiguilles aussi fines qu'un cil se chargent de la prise de sang sur la partie interne du bras. Ce boîtier à usage unique récolte 0,1 ml de sang en moins de 2 minutes et ne laisse qu'une petite marque. D'autres start-up ont proposé leur prototype, mais une seule a reçu l'autorisation de commercialisation pour l'Europe. Elle sera d'abord distribuée dans les laboratoires. Des crevettes remueuses d'océan. Selon les paléobiologistes de l'université de Cambridge, les Artemia, ces minuscules crevettes, pourraient jouer un rôle tout aussi important que le vent et les vagues dans le mélange de l'eau des océans. Les expériences en laboratoire de spécialistes des courants océaniques, publiées dans la revue Nature, montrent que les Artemia créent des tourbillons capables de mélanger les eaux en surface et les eaux profondes, transportant chaleur, microbes et carbone vers le bas. Une preuve de plus que l'écologie animale est un facteur majeur à prendre en compte dans le fonctionnement des océans. Et puis une naissance exceptionnelle pour terminer, celle d'un bébé gorille qui a eu lieu ce dimanche au parc zoologique national de Washington. Ça fait 9 ans que le personnel de ce zoo attendait ce rare événement. Prénommé Moke, ce petit gorille des plaines occidentales est le fruit de l'union entre Kalaya, une mère âgée de 15 ans, et Baraka, le mâle reproducteur. Pour préparer Kalaya à la naissance, les vétérinaires lui ont montré des photos de mère gorille et une peluche pour lui montrer justement comment allaiter. Le WWF rappelle que le braconnage et les maladies ont réduit les populations sauvages de ce grand singe de 60% au cours des 20 à 25 dernières années. Des images du bébé Moke avec sa mère sont à retrouver sur la page Facebook de l'émission. Allez, le pouvoir de l'esprit, dans un instant, c'est le dossier de la tête au carré.
Sous-titrage Société Radio-Canada. pour Thermolactur. Soleil de volte, néon de lune. Mon corps vivote ici, dans des clubs de fortune. La plainte du générateur, l'aube c'est le curfew. Le corps sert de catalyseur, dans le rôle du fusil que des voyous. Voyous. Des plus et des moins, des zéros et des uns, pour neutraliser nos besoins sur des torrents décibels. Les mots font des étincelles.
Balogi et Soleil de Volt à l'instant.
La tête au carré. Sur France Inter.
Patrick Clairvoyt, vous êtes notre invité, médecin psychiatre, ancien professeur de médecine au Val-de-Grâce, et vous publiez donc cet ouvrage « Les pouvoirs de l'esprit sur le corps ». C'est aux éditions Odile Jacob, avec les auditeurs qui nous rejoignent, avec les messages, toutes les questions pour vous sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Alors on va parler un petit peu de votre parcours pour savoir exactement qui vous êtes. Vous avez été engagé sur plusieurs théâtres d'opérations militaires, vous avez publié des ouvrages sur les traumatismes psychiques. Justement, l'influence du psychisme, et c'est le cœur de ce livre, sur le corps, ça vous intéresse depuis quand exactement?
Presque depuis que j'ai commencé médecine, et ce qu'on appelle la balance psychosomatique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un événement psychique peut produire immédiatement un phénomène de corps, et il y en a par exemple un très simple, c'est rougir. Et qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un rougit, il rougit toujours d'une partie choisie du corps. C'est par exemple l'oreille, c'est-à-dire cette partie du visage qui fait face à vous et que vous voyez bien. Mmh. Et quand les gens rougissent de l'oreille, il n'y a que l'oreille qui rougisse. C'est pas rouge un peu à côté, c'est que l'oreille. La femme qui rougit, c'est le cou et c'est le V du col. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une émotion, son corps vous montre quelque chose, probablement pour vous envoyer un message.
Sauf qu'on choisit pas la partie du corps dans laquelle on rougit. Hein.
Et non. Et l'idée, c'est que si on comprend cette balance psychosomatique ou aussi le phénomène inverse, c'est-à-dire pourquoi quand surgit un événement de corps, par exemple une infection aiguë, ça vous guérit d'une infection chronique qui traînait jusque-là. Et donc cette balance psychosomatique où l'on voit dans le suivi de certaines maladies le psychisme prendre le pas sur les événements de corps ou inversement des événements de corps transformer un état d'être psychique, eh bien c'est passionnant, je l'ai observé et j'ai voulu comprendre et aller au bout. Oui. Est-ce que ces observations nous montrent?
Alors, ce qui est étonnant, c'est que tout le monde observe cela. Les exemples, on peut en citer évidemment énormément. Et pourtant, il y a quelque chose de l'ordre du tabou à l'évoquer et à mettre un peu ça sous le tapis quand même aujourd'hui. Oui. Pourquoi la science occidentale est-elle aussi mal à l'aise avec ces questions au fond?
Alors, la phrase qu'on entendait souvent, c'est, vous savez, c'est dans la tête.
Oui, mais c'est dans la tête un petit peu quand même.
Mais
c'est
justement,
pas faux.
Aujourd'hui, l'imagerie médicale et tout l'apport des neurosciences nous montrent qu'effectivement, il se passe bien quelque chose dans la tête qui explique le phénomène et qui peut montrer comment, par d'autres procédés, on peut le prendre en compte. Et si autrefois on répondait à quelqu'un qui se plaignait d'un organe, qui se plaignait d'une douleur, qui se plaignait de sa constipation ou de ses difficultés digestives, de ses difficultés respiratoires, de son oppression thoracique, si on lui disait « Monsieur, vous n'avez rien », eh bien, on n'était pas soignant. Mais si aujourd'hui, on arrive à lui dire, effectivement, vous pouvez ressentir ça, et nous savons voir ce qui se passe dans votre cerveau, eh bien, on peut l'aider.
Oui. Est-ce qu'on voit aussi bien que ça dans le cerveau, d'ailleurs? Parce que le cerveau et l'imagerie nous laissent entendre qu'on aurait quasiment une photographie en temps réel qui nous permettrait de tout expliquer à la seconde où on observe cette image. Or, c'est plus complexe que ça, quand même, l'imaginerie cérébrale.
Bien sûr. On en rêverait de lire. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on va quand même très très loin. Et par exemple, la technologie médicale aujourd'hui nous permet de savoir exactement quel neurone, à quel moment, a fonctionné de telle manière avec d'autres neurones. Et on arrive à suivre des circuits d'activation. Et pour vous montrer l'exemple de l'influence de l'esprit sur le corps, je vais vous donner une petite expérience qui a été faite. On demande à quelqu'un qui est volontaire, qui a la tête prise dans un casque où l'on peut lire justement cette activité neuronale, on lui dit, on va vous mettre la main dans de l'eau chaude, ça brûle un peu. Et donc, en même temps qu'il met la main dans l'eau chaude, on regarde l'activation des neurones et on voit plein de zones cérébrales qui s'activent pour dire que ça fait mal. La même personne, avec une eau à la même température et la même main, on lui dit, on va vous mettre la main dans de l'eau, vous verrez, c'est tiède, ça ne fait pas mal. Mmh. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe au niveau cérébral? les zones ne sont plus activées. Ça veut dire que la disposition psychique dans laquelle il est au moment d'expérience va faire que soit il aura mal, soit il aura rien. D'où l'influence de l'esprit sur le corps.
Ça, c'est la main caoutchouc, c'est l'expérience de la main caoutchouc ou pas? Parce que ça ressemble un petit peu à ça.
Si je peux vous raconter la main en caoutchouc.
Ben oui, allez-y, parce que
c'est un exemple spectaculaire. Vous mettez quelqu'un sur une table, les deux bras sur la table devant lui. Mais vous lui cachez la main gauche avec une plaque et à la place, devant la plaque, vous mettez la main en caoutchouc, donc une fausse main qui ressemble un peu à la sienne, et vous camouflez tout ça avec un drap. L'expérimentateur, avec deux pinceaux, va passer le pinceau sur les mêmes endroits de la fausse main et de la vraie main que le patient ne voit pas. Et donc, on voit qu'en quelques minutes, l'esprit du patient va intégrer la main en caoutchouc comme étant la sienne, puisqu'il va prêter à la main en caoutchouc les perceptions qu'il sent sur l'autre main. Puis l'expérimentateur prend une aiguille, pique la main en caoutchouc, et vous voyez la personne pousser un cri, retirer sa main et se frotter là où il pense que sa main a été piquée. Et vous voyez bien que c'est...
Est-ce qu'elle ressent la douleur ou pas?
Absolument. Et si on mettait un casque sur la tête, on verrait l'activation de la zone cérébrale correspondante. Ça veut dire que si son esprit lui dit « ça fait mal là où tu penses qu'on t'a touché », il va ressentir de la douleur. Et voyez, ça nous fait, au plan médical, accepter l'idée que, des gens peuvent ressentir des douleurs pour des affections, j'allais dire, qu'on ne peut pas évaluer réellement dans la chair, mais qui nécessitent quand même qu'on puisse l'aider.
Alors justement, Patrick Clairvoy, pour l'aider, on peut aussi lui dire, plutôt que ça va vous faire mal et elle va réagir, ça peut vous faire du bien aussi, et elle va réagir de la même façon dans l'autre sens.
Absolument. Et ça veut dire que, pour n'importe quel soin, le temps d'explication, le temps de dire au patient « voilà ce que vous avez, voilà ce que l'on comprend, voilà ce que l'on peut faire et voilà comment on va procéder », si le patient a eu toutes ces informations, il sera dans les meilleures dispositions pour profiter de l'effet bénéfique de ce soin. Si par contre le soin est déshumanisé, j'allais dire robotisé, standardisé, allez, venez, patient numéro 34, posez-vous. Je vous rappelle, c'est Binet, le dessinateur qui a fait une BD qui s'appelle Assujettis sociaux, et c'est je ne dédie pas cette BD à, et il donne au médecin qui m'a appelé l'articulation de Chotard. Mais il montrait bien cette déviance, c'est-à-dire que quand on s'adresse à quelqu'un pour le soigner, on s'adresse à une personne, cette personne a une histoire, cette personne a une culture, cette personne a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les antécédents. Et c'est très clair que nous avons à prendre connaissance de cet environnement du patient pour pouvoir lui donner accès aux soins.
Ouais. C'est ce que vous déplorez aujourd'hui, finalement, c'est une médecine qui a complètement divisé l'individu en organes.
Absolument. Une anecdote pour le montrer. Un patient vous dira à l'hôpital, j'ai vu le médecin aujourd'hui, je l'ai vu 2 minutes. L'infirmière, je l'ai vu 5 minutes à chaque temps de distribution des médicaments. Et finalement, qui est-ce qui m'a aidé? Qui est-ce qui m'a écouté? C'est l'aide-soignante. Parce que l'aide-soignante, elle prend du temps. Elle est présente. Il y a une relation d'écoute, d'échange. Elle a des aspects très maternels. Elle apporte à manger, elle aide à faire la toilette ou à s'habiller quand il faut le faire. Mais en même temps, cette présente soignante amène, c'est ce que j'écris dans le livre, une présence empathique autour du patient, et cette dimension d'empathie va accélérer, renforcer, donner des forces au processus de guérison.
Il y a des expériences très intéressantes qui ont été faites récemment d'ailleurs par l'Institut Pasteur, on s'en était fait l'écho aujourd'hui sur des couples qui justement en se tenant la main arrivent à supporter mieux la douleur pour les personnes justement qui ont un problème, et là il y a vraiment une connexion des cerveaux qui s'opère.
Oui, très probablement, et on le voit dans la neuroimagerie, c'est des choses que j'explique dans le livre. On voit comment l'empathie, la présence des gens autour de vous, va vous aider à guérir. Et la pire des situations quand on est malade, c'est l'isolement. Et la meilleure, c'est quand vous êtes dans un environnement affectif qui vous soutient.
Finalement, Patrick Clairvoy, ce que vous nous dites, c'est que voilà, il y a des images mentales qui entrent en jeu dans la maladie. Il y a effectivement les forces du psychisme qui sont là, qu'on ignore beaucoup. Ce serait intéressant de pouvoir en étudier tous les mécanismes aujourd'hui. C'est ça, c'est quasiment une nouvelle discipline qui peut s'ouvrir.
À mon sens, oui. Alors, dans le livre, je développe une idée que j'appelle l'image mentale du corps. Alors, on va parler de l'anorexie mentale, par exemple. J'avais une patiente qui me disait « Mon corps est comme un sac que l'on peut remplir et que l'on peut vider. » Je lui demande de choisir une autre image. Elle me dit « Bon, peut-être que je suis un écrin. » Et je dis « Si votre corps est un écrin, où est le bijou ?» Et elle me dit « On l'a perdu. » Et donc, vous voyez que dans cette prise en charge d'une patiente, qu'est-ce que je décris? J'aide cette patiente à se faire une représentation mentale de son corps, parce que ce qui est très important, et c'est le mot que j'emploie le plus dans ce livre, c'est le mot réconciliation. Ça veut dire que pour aider quelqu'un à guérir, il faut l'aider à ce qu'il se réconcilie avec son corps, avec l'image mentale de son corps, avec son symptôme, avec sa maladie, éventuellement avec son médecin.
On va écouter l'extrait d'un documentaire qui s'appelle « Chère anorexie », justement, qui était sorti en 2016.
Je pense que je n'ai pas du tout en tête l'idée de la perfection du corps, mais en tout cas, cette prise de contrôle oui, sur un amaigrissement progressif qui fait que quand même on ressent clairement, je veux dire, ressentir son corps qui chaque jour s'amaigrit, qu'on arrive à le faire, que c'est nous-mêmes qui provoquons ça, c'est quelque chose de très très fort.
Quand je ne me nourrissais pas, je ne ressentais pas la faim. Par contre, ça me donnait la sensation très forte d'être vivante, concentrée, intense. Et j'aimais ça, parce que j'avais l'impression que j'arrivais vraiment à penser, comme si j'étais droguée.
Cette sensation de complètement vide, je l'ai remarquée et j'ai pas voulu le lâcher. C'est un truc en moi qui... Il y a un contrôle de quelque chose, d'un corps, on y va.
Voilà, Patrick Clairvoy, ce témoignage autour de l'anorexie. On voit bien justement cette représentation qui permet de se construire un corps particulier, hein, qu'on voit tel qu'il ne l'est pas, au fond.
Et il y a ce mot que je viens d'entendre, cette sensation intense d'être vivant. Mais pourquoi, c'est l'interrogation, c'est pourquoi l'anorexie a-t-elle besoin de s'abstenir de manger, d'éprouver, d'être affamé pour le ressentir? Mais si nous pouvons tous les jours nous nourrir de cette sensation intense d'être vivant, je suis convaincu que nous activons dans notre psychisme des processus qui nous aident à améliorer, ou en tous les cas à maintenir notre santé.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette discussion autour des pouvoirs de l'esprit sur le corps, livre qui sort chez Odile Jacob.
Oh,
et c'était Courtney Barnett.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Patrick Clairvoy, notre invité avec les pouvoirs de l'esprit sur le corps chez Odile Jacob et les pouvoirs des émotions aussi, parce qu'on peut aussi décliner cela en Alors, parlant des émotions. Est-ce que d'ailleurs c'est mesurable au fond la façon dont les émotions peuvent agir sur la façon de réagir du corps tout simplement ?
Alors oui, et depuis, alors pour vous donner juste un indice très rapide, ça fait très longtemps qu'on essaie de les mesurer et notamment ce qu'on appelle le détecteur de mensonges qui agit sur la conductance cutanée, c'est-à-dire si vous transpirez un peu ou pas, parce que la transpiration va parler aussi pour vous.
Ouais.
Mais quand on prend par exemple le rôle des émotions, on connaît assez bien le rôle négatif des émotions. Je donne l'exemple dans le livre d'un adulte que j'avais reçu qui était totalement chauve. Et je lui demande qu'est-ce qui lui était arrivé. Il me raconte qu'à l'âge de 10 ans, il s'était fait attaquer par un chien. Le chien l'avait attaqué, ne l'avait pas mordu. Une frayeur intense dont il se remet, il dit... La soirée s'est bien passée, la nuit pareil. Le lendemain matin, quand il se réveille, tous ses cheveux étaient restés sur l'oreiller.
À l'âge de 10 ans.
Voilà. Et donc, on voit bien que l'émotion peut avoir une force sur le corps, mais quasiment instantanée. J'ai pris en charge une patiente qui a présenté une défaillance cardiaque brutale, qui a nécessité 3 semaines de réanimation. Défaillance cardiaque immédiatement après que le mari lui a annoncé son intention de divorcer. Donc, vous voyez qu'il y a l'émotion dans son potentiel négatif, qui esquinte le corps. Mais on peut aussi utiliser d'autres émotions, notamment c'est l'empathie, c'est la rassurance, etc. C'est le soin apporté par l'autre. J'allais dire tout simplement un mot aussi simple que la gentillesse fait du bien, si je puis dire. Et une petite anecdote que je raconte mais qui fait sourire. Autrefois, les Grecs soignaient les grands désordres de folie en précipitant les gens du Osphalès dans la mer. Mmh. Et aujourd'hui, il en reste que, si vous voulez vous guérir d'un chagrin d'amour, jetez-vous dans l'eau à partir de la falaise.
Et vous qui êtes à côté de Toulon, il y a de quoi faire effectivement là-bas. Et prenez toutes les précautions nécessaires, évidemment. La peau, c'est l'organe de la traduction aussi de l'émotion et de l'état psychique.
Oui, j'écris que la peau est probablement le plus bavard de tous nos organes. Et vous avez différentes manifestations, notamment toutes ces manifestations à caractère inflammatoire, comme l'eczéma, comme le psoriasis. La peau parle. Et vous avez par exemple, on voit bien l'interaction esprit et corps à travers le phénomène suivant. Le virus de l'herpès reste, on dit le terme médical, c'est quiescent, ça veut dire en sommeil, dans les ganglions nerveux étagés le long de la colonne vertébrale, une forte émotion, et vous avez tout le rameau nerveux correspondant sur lequel se développe l'herpès, et c'est ce qu'on appelle le zona. Le zona qui dessine une zone particulière du corps tout le long du rameau nerveux. Et on voit bien, en tous les cas, qu'il y a une interaction entre le psychisme et le système nerveux. Mais autre phénomène intéressant, qui est inexpliqué, que je raconte parce qu'on m'en a témoigné, mais qui reste inexpliqué, ce qu'on appelle les enleveurs de feu. Vous avez des gens en France, vous allez les voir quand vous avez un zona, ils font une manip sur vous-même, et vous n'avez plus ce que vous appelez le feu. Et ces gens racontent qu'après avoir fait ce soin, qui est un soin de rebouteux, les soignants sont épuisés, tandis que le patient sort... plein d'énergie.
Alors Patrick Clairvoy, des exemples étonnants, il y en a abondamment dans cet ouvrage, et en particulier celui de cette femme qui voulait obtenir l'amputation de sa jambe. Alors on va expliquer ça évidemment dans un instant, et pour illustrer cet exemple très particulier, on va écouter ensemble un extrait de la série Nip Tuck.
Monsieur White, dites-nous ce que vous n'aimez pas chez vous.
Je ne peux pas me regarder dans une glace. Voyez-vous, je souffre de ce qu'on appelle un tic, un trouble de l'identité corporelle. Je peux voir tous les psychiatres de la Terre, prendre tous les médicaments qu'on veut. Ça n'y changera rien. Je suis obsédé par ma jambe.
Je veux que vous me coupiez la jambe.
Depuis l'âge de 5 ou 6 ans, j'ai su que j'avais cet énorme appendice en trop. Toute ma vie, j'ai prié pour que cette monstruosité tombe d'elle-même. Mais non. J'ai fêté mes 40 ans la semaine dernière et maintenant ça suffit. Si Dieu existe, je lui demande de me guider vers le chirurgien qui acceptera de mettre un terme à ma souffrance.
Nous ne pratiquons pas d'amputation.
Vous avez bâti votre réputation en pratiquant des modifications corporelles. Or, mon cas n'est pas différent de quelqu'un qui vient vous demander de changer de sexe, n'est-ce pas ?
Enfin, monsieur White, un changement de sexe n'est pas une mutilation.
Ce n'est pas un service que je vous demande. Je veux avoir le contrôle total de mon corps.
Nip/Tuck, saison 3, épisode 7, Patrick Clairvoy. Vous aviez connaissance de l'épisode de la série au moment de l'écriture du livre ou pas?
Alors, je vais vous raconter une histoire. Je reçois, enfin, que j'ai décrit dans le livre, hein. À Toulon, je reçois une femme qui s'est grièvement brûlée la jambe en l'immergeant dans de la neige carbonique et qui me dit exactement ces mots-là. Et même le chiffre, j'ai 40 ans et j'ai décidé, voilà, qu'à 40 ans, je pouvais maintenant prendre soin de mon corps. Elle racontait que depuis l'enfance, elle savait qu'à une certaine distance particulière, différente entre la jambe droite et la jambe gauche, elle dit à partir de 12 cm.
C'est à mi-cuisse, hein, c'est ça,
voilà.
À peu près. Hein,
ouais. Ça, c'est, et elle dit, ça c'est moi et ça c'est plus moi. Qu'est-ce qui se passe pour que cette femme déclare qu'une partie de son corps ne soit pas sienne, trouble de l'identité corporelle. Et très intriguée, on a conduit un certain nombre d'explorations chez elle, et notamment pour savoir si c'était pas l'absence de représentation, l'inverse du membre fantôme, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une absence de représentation de son membre au niveau de l'aire cérébrale de projection du corps, qu'on appelle les aires de Penfield, et on n'a rien vu dans le cerveau. Mais il faut vous dire aussi qu'on n'a pas forcément les outils qui, comme vous le disiez.
Et on ne voit pas tout dans le cerveau.
Voilà. Mais cette femme m'a raconté exactement cette histoire.
Donc, gros trouble de l'identité, hein, et de l'intégrité corporelle, au fond.
Oui. Et alors, je voudrais rajouter quelque chose. C'est l'effet amplificateur qu'a eu Internet. Parce que quand j'ai vu l'épisode de Nip/Tuck, je dis, mais cette patiente, je l'avais enregistrée, filmée, j'ai publié là-dessus. Et donc, c'est exactement les mots de ma patiente. Et je me suis dit, soit ma patiente, elle a regardé sur Internet et elle m'a répété un discours qu'elle avait appris, soit des scénaristes d'Hollywood ont été puisés dans son témoignage sur Internet pour nourrir cet épisode de Nip/Tuck.
Sauf que elle avait vraiment ce désir et cette obsession de se faire amputer la jambe quand même.
Alors, c'est nouveau, mais on en décrit une centaine de cas dans le monde. Il y a eu différentes publications qui l'ont montré.
Donc, elle vous l'a demandé?
Oui.
Et vous avez refusé?
Oui, parce que j'estimais que je n'avais pas le recul suffisant pour lui offrir cette autorisation, si je puis dire, qu'elle s'est offerte quand même, puisque donc aujourd'hui elle est amputée. Voilà.
C'est incroyable. Donc, c'est-à-dire qu'elle a trouvé des médecins qui ont accepté de l'amputer pour répondre à sa demande.
Il faut savoir que dans le monde, alors c'est un chirurgien en Écosse qui faisait toutes ces amputations jusqu'à ce qu'on le lui interdise. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller dans des pays du sud-est asiatique et on vous opère, moyennant une somme assez chère, mais vous trouvez dans le monde des pays où la loi l'autorise. En France, on n'a pas ça. Mais si vous le permettez, par rapport aux gens qui demandent de changer d'identité sexuelle, ça on le connaît beaucoup plus, ça a été évalué. Et quand j'en ai parlé avec le professeur Jean-Pierre Ollier, qui est probablement celui qui en France a fait le plus d'expertise de ces patients qui demandent de changer de sexe, il y a effectivement des troubles de l'identité, où des gens sans avoir aucune maladie psychiatrique, sans avoir, si je puis dire, aucune maladie somatique évidente, effectivement souffrent d'un corps qui n'est pas le leur, et vont beaucoup mieux quand on leur offre, par la chirurgie, par le traitement hormonal, d'avoir un corps différent. Et finalement, pour moi, je l'emploie ce terme dans le livre, le terme de réconciliation. Platon disait, la pratique du soin, parlant du médecin, est une pratique de réconciliation. Et donc finalement, est-ce que guérir quelqu'un, enfin, offrir à quelqu'un de pouvoir guérir, c'est pas aussi l'aider à se réconcilier
avec l'image mentale, justement, de son corps. Et vous regrettez finalement de ne pas avoir participé à cette réconciliation d'une certaine façon, avec la demande de cette femme? Là, on parle de l'amputation. Hein,
oui,
on revient sur
je n'ai pas
sujet.
Pris seul cette décision. On l'a faite avec les différents chirurgiens, avec le professeur Jean Naudin de Marseille, à qui j'avais demandé de nous offrir son expertise. Et nous avons choisi de ne pas nous engager dans quelque chose que nous ne maîtrisions pas, pour cette affaire à près de 15 ans maintenant.
Vous l'avez croisée après ou pas?
Cette patiente?
Bien sûr.
Oui.
Comment va-t-elle?
Ah ben elle va bien, les médias en parlent beaucoup. Elle fait beaucoup d'activités sportives pour lesquelles elle a régulièrement la chronique dans les médias. Et en même temps, j'ai un petit regret. Je ne suis pas arrivé à réconcilier cette patiente avec le corps qu'elle avait. Mais en même temps, je dois admettre qu'aujourd'hui, avec le corps amputé, elle est réconciliée avec elle-même.
Je ne connais qu'une fille qui se nomme Mona Lisa Claxon. Elle vit dans une île entourée de crocodiles et de fantômes. Noire comme l'ébène, souveraine, elle joue du trombone. Personne ne m'appelle aussi quand le téléphone sonne. Je sais que c'est Mona Lisa Claxon. Allô, ça va? Oh, Mona Lisa Claxon. comme ça, Mona Lisa klaxon. Et toi? Oh Mona Lisa klaxon, je n'en peux plus. Danse, danse, remue pour moi au téléphone. Les soirs où Mona Lisa klaxon a le cafard, elle s'enferme dans la cuisine avec son grand léopard. Tandis qu'elle entre en transe tout en lui mordillant les chines. De la jungle en démence monte cette incantation divine, divine Mona Lisa klaxon. Joue du trombone, Mona Lisa klaxon. Mona Lisa klaxon. Trombone, Mona Lisa klaxon. Je n'en peux plus, je suis fou, fou, fou de toi, de la danse, de tes pas. Oh Mona Lisa klaxon. Oh Mona Lisa klaxon. Oh Mona Lisa klaxon.
Soudain derrière elle surgit le célèbre King Kong. Il a la bave aux lèvres et la banane comme un canon. Dans les yeux fous du monstre basse une étrange lueur. Esclave de la danse, Mona ne l'a pas senti venir. Il va pour se le saisir. Oh Mona Lisa klaxon. Tête ton trombone. Oh Mona Lisa klaxon. Mona Lisa klaxon. Trombone. Oh Mona Lisa klaxon. Et moi qui reste là pendu au téléphone. Ne coupez pas. Ne coupez pas. Oh ne coupez pas.
1974, Mona Lisa klaxon, c'était Jacques Higelin.
La tête au carré.
Patrick Clairvoy, notre invité, dernière partie de cette discussion autour des pouvoirs de l'esprit sur le corps. Le corps, un grand mystère, hein, encore,
oui, oui.
Justement. Beaucoup de choses à découvrir. Et c'est justement ce que vous sollicitez, au fond. Hein.
Alors,
c'est des recherches plus importantes sur ces mécanismes?
Alors, c'est des recherches très actuelles. La question est la suivante. Quelle est cette énergie que nous avons tous en nous, qui peut, lorsqu'elle est disponible, nous aider à guérir, ou quand elle ne l'est pas, nous rendre malade.
Ouais, le terme d'énergie, vous savez bien que ça, en science, on a du mal à l'entendre aussi, non?
Et pourtant, il y en a une. Alors, je vais vous donner un exemple, par exemple, avec le placebo. On a toujours considéré dans les études médicales que l'effet placebo était un effet parasite. Ça nous empêchait de voir l'action réelle d'un médicament ou d'une substance. Mais aujourd'hui, on est en mesure d'évaluer, et c'est Ted Kapchuk avec son équipe au Massachusetts qui fait beaucoup de publications là-dessus, qui montre ce qui nous permet d'activer l'effet placebo. Et par exemple, si vous enlevez certaines récepteurs, et les récepteurs notamment aux opiacés, eh bien, si on les inhibe, on s'aperçoit qu'on inhibe l'effet placebo. Ça veut dire que, là encore, c'est dans la tête. Mais l'effet placebo, aujourd'hui, nous avons les moyens de voir à quel niveau il agit au niveau du cortex cérébral.
Donc, pouvoir l'utiliser aussi plus souvent, ou dans certaines circonstances particulières.
Le stimuler. Alors, l'une des particularités, c'est qu'en fait, nous avons une disponibilité à être sensible au placebo, variable génétiquement. Ça veut dire que on sait...
Tout le monde n'est pas égal, alors, sur cette question-là.
Tout le monde n'est pas égal, mais on peut apprendre à le devenir. Avec l'épigénétique, nous pouvons, si on sait le stimuler, nous pouvons apprendre à devenir sensible à l'effet placebo.
Il y a une question de Yannick sur franceinter.fr. Il nous dit « Je suis atteinte d'algie vasculaire de la face ». Qu'est-ce que c'est exactement comme pathologie ?
Alors, c'est une inflammation nerveuse, c'est-à-dire que c'est le nerf trijumeau.
Alors, il est reconnu, dit-il, que lors de grosses crises de douleur, la main ou même la présence du conjoint est presque énervant. Et dans certains cas précis, l'esprit se referme sur lui-même pour supporter la douleur et n'a donc plus de place pour autrui. Suis-je le seul dans ce cas-là ?
Non, non. Et donc, la particularité, c'est que donc, c'est une personne qui va avoir une extrême sensibilité au moindre contact tactile. C'est-à-dire qu'il y a une exacerbation. Normalement, nous avons des capteurs qui nous permettent de savoir si la pression que l'on exerce sur notre peau est plus ou moins forte. Mmh. Mais vous avez certains troubles neurologiques où, quelle que soit la stimulation, y compris si elle est extrêmement légère, la traduction cérébrale, le signal qui vous est envoyé au niveau des centres de la sensorialité, va vous indiquer que vous avez une douleur que rien n'arrête. Et d'ailleurs, ce sont des médicaments anti-épileptiques qui corrige le mieux cette extrême sensibilité.
Patrick Lavoie, justement, dans cette relation, dans la maladie, hein, entre le psychisme et puis le germe, à l'origine, par exemple, d'une maladie, on ne connaît pas forcément la proportion de l'un et l'autre, et c'est tout le jeu permanent qui rentre dans ce cadre-là.
Alors, les camarades qui m'ont donné accès à cette connaissance m'ont passé des articles sur ce qu'on appelle la relation hôte-pathogène. Et ça vous donne une indication suivante. Ce n'est pas parce que vous avez un germe dans votre organisme que vous êtes malade. Il y a par exemple, c'est très critiqué dans la pièce du docteur Knock, vous avez le porteur sain. Et vous avez des gens qui peuvent être affectés par certains germes qui ne développeront jamais la maladie. Alors, pour parler des germes les plus impressionnants aujourd'hui, vous avez des gens qui ont été en contact avec le virus du sida et qui n'ont jamais développé le moindre déficit immunitaire.
Alors justement, c'est quoi ça? C'est des prédispositions génétiques ou c'est purement du psychisme? On a quand même du mal à l'entendre comme ça, non?
Mais pardonnez-moi, mais c'est la même chose. On ne peut pas isoler l'un et l'autre. Je ne pense pas que ce soit un facteur psychique objectif. Mais ça veut dire que vous avez dans le corps des ressources qui, si elles étaient activées chez tout le monde, permettrait d'inactiver chez tout le monde le virus du sida.
Ouais, sauf que le gène, c'est quelque chose de concret quand même, alors que le psychisme, on est dans quelque chose qui est absolument pas mesurable, c'est impalpable. On n'est pas du tout dans le même domaine, là.
Le psychisme, pour moi, c'est la palpitation, c'est ce que produit la palpitation du corps. De toute façon, le psychisme, qu'on le veuille ou non, il est porté par le cerveau. Oh, il y a eu un congrès de psychiatrie aux États-Unis il y a une quinzaine d'années qui portait le très joli nom « Quand l'esprit rencontre le cerveau »,« When mind meets brain ». Et ça veut dire que de toute façon, sans le support du cerveau, votre esprit ne peut pas être activé. Mais en même temps, et c'est là la grande surprise, ce que vous faites avec votre esprit peut entraîner via la neuroplasticité, ce que vous faites avec votre esprit peut transformer l'architecture de votre cerveau.
Patrick Clairvoy, vous parlez d'une notion, d'un terme très à la mode au 19e siècle qui s'appelle le vitalisme, qui est carrément désuet aujourd'hui. Et pourtant, vous avez comme une envie de le réhabiliter, ce fameux vitalisme. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce qu'il vous semble important justement de le porter un peu sur le devant de la scène?
Alors, le vitalisme, c'est né avec le mouvement romantique. Donc vous voyez que c'est difficile de l'amener en médecine. Mais en même temps, quand j'ai découvert les écrits de Charles Lasseg, qui est un neurologue connu en France du 19e siècle, quand on lit ses écrits, on sent qu'il a saisi une dimension extrêmement importante de ce qui fait vivre un corps et de ce qui anime la guérison. Et donc le vitalisme, aujourd'hui, c'est probablement cette dimension que l'on active dans certains soins, comme certaines médecines alternatives, comme par exemple l'acupuncture. C'est ce que l'on anime dans certaines thérapeutiques à orientation psychologique, comme le mindfulness, la pleine conscience. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que sans en utiliser le nom vitalisme, il y a de tas de techniques médicales qui se développent et qui existent dans les milieux hospitaliers, qui sont validées par l'université et la science. On a beaucoup de techniques qui valide aujourd'hui que l'on utilise ces ressources internes qu'on va appeler génériquement le vitalisme.
Donc c'est quoi? C'est la puissance vitale, hein, c'est ça?
Absolument.
Ça, c'est cette idée-là.
Cette puissance vitale, c'est par exemple quand quelqu'un s'est coupé, le chirurgien, qu'est-ce qu'il fait? Avec sa suture, il va rapprocher les berges de la plaie. Mais c'est pas lui qui fait la guérison. Du corps vont surgir différents phénomènes qu'on appelle le bourgeonnement qui va permettre la cicatrisation et finalement la réparation totale. Et voyez, le vitalisme, c'est là où je dis qu'il y a une composante génétique, c'est qu'il y a très probablement ces mécanismes. C'est les codes génétiques, c'est l'ADN de nos cellules qui va commander toute une série de processus qui vont amener à la guérison. Et finalement, le vitalisme, c'est probablement la première énergie libérée par ce que nous avons dans l'ADN.
Alors, Hippocrate, c'est une idée d'y revenir finalement, de reprendre les bases de l'Antiquité et puis de reprendre l'être humain dans son entier.
Eh bien, je dirais, Hippocrate la très grande modernité d'Hippocrate.
Hippocrate avait raison, hein, c'est ça.
Bien sûr. Mais Hippocrate probablement a dit des choses qu'il avait entendues de ses propres maîtres et de son expérience. Mais vous savez, quand Émile Littré a édité les œuvres complètes d'Hippocrate, il a mis cette phrase d'Hippocrate en tête de toute son œuvre, qui dit « La nature du corps est le commencement du raisonnement médical ». Ça veut dire que si j'observe comment fonctionne un corps, je suis en mesure de comprendre les processus par lesquels je peux l'aider à se réparer.
Et aujourd'hui, on ignore ça. Enfin, en tout cas, on le met un petit peu
sur
le côté.
On l'ignore pas, mais nous avons des tas de nouveautés en médecine, des tas de choses que l'on apprend qui font que ça ne revient pas en permanence. Mais ce que je peux exprimer comme regret aujourd'hui, c'est la fragmentation des soins. Ça veut dire que, par exemple, si vous allez voir un médecin spécialiste, il va regarder que ce qui concerne sa spécialité et le reste, il dit « j'ai pas le temps ». Eh bien non. Quand on fait de la médecine, c'est on prend le temps de regarder le malade dans sa totalité, dans sa globalité. Les médecins les plus vitalistes, finalement pour moi, ben, ce sont les médecins généralistes. Parce que eux, ils reçoivent le patient, ils le connaissent dans son environnement, ils voient comment il vit chez lui, ils connaissent son histoire, l'histoire de ses parents, et c'est finalement le médecin généraliste qui est le plus à même de comprendre dans sa globalité le patient et la maladie qui l'affecte.
Voilà, vous en avez un à votre droite qui est en train de roucouler, c'est Dominique Dupagne qui va intervenir.
C'est superbe ce que vous dites, vraiment superbe.
Voilà, il va arriver dans un instant pour sa chronique. Patrick Clairvoy, vous poursuivez aujourd'hui la pratique à Toulon, c'est ça?
Oui, parce que ça me nourrit.
Ouais. Mais est-ce que justement tout ce que vous venez de nous dire, ce que vous venez de nous raconter, vous le mettez en pratique concrètement aussi dans votre travail de psychiatre?
Et notamment par exemple ce que j'appelle l'image mentale du corps. Et je dois dire que pour beaucoup de mes patients, par exemple, quand je les observe dans leurs difficultés, je leur dis, madame, monsieur, où sont vos forces? Il y en a qui vous disent, c'est mon fils, c'est mon enfant, ou c'est mon conjoint, etc. Et je leur demande toujours si elles ont des ressources spirituelles, parce qu'il y a une réalité aussi. Les gens qui ont des ressources spirituelles seront plus forts pour affronter la maladie que celles qui ne les ont pas.
Merci beaucoup d'être passé cet après-midi dans la tête au carré. Patrick Clairvoy, ça s'appelle donc « Les pouvoirs de l'esprit sur le corps ». Un certain nombre d'exemples et au cours de votre parcours de médecin militaire aussi, des choses assez étonnantes que vous avez vues, que vous décrivez. Vous parlez aussi pas mal des miracles. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, eh bien, il faut lire cet ouvrage qui est publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup à vous.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Voilà, il est donc là notre médecin généraliste Dominique Dupagne. Ça va Dominique?
Bonjour Mathieu, que la force soit avec vous.
Oui, merci beaucoup. Et que pensez-vous de cette psychose des sèches-mains à air pulsé?
Eh ben, c'est n'importe quoi. Alors, c'est pas nouveau. Tous les 10 ans, on nous ressort un épisode terrifiant de la série, ces microbes qui nous menacent. Il y a 30 ans, c'était sur l'abattant des toilettes. Il y a 20 ans, c'était les distributeurs de cacahuètes sur les comptoirs. Oui. Et maintenant, c'est l'air pulsé des sèches-mains dans les toilettes publiques. Tout ça est ridicule.
Le danger est partout. Mais pourquoi est-ce ridicule?
C'est ridicule parce que c'est fondé sur un postulat scientifique faux qui voudrait que le contact avec des microbes flottant dans l'air provoque automatiquement une infection. Oui. C'est bien plus compliqué que ça, mais revenons à l'origine de ce buzz qui a agité les réseaux sociaux.
Alors au départ,
il y avait il y a deux obscures publications en 2016 et 2018 qui montrent que les sèches-mains, surtout ceux à air pulsé, diffusent les microbes dans l'air ambiant. Alors du coup, une blogueuse s'est amusée à mettre des boîtes de pétri sous les sèches-mains des toilettes de son université. Oui. Et vous savez, ce sont ces petites boîtes rondes dans lesquelles on cultive des microbes en laboratoire. Alors, elle a bien sûr récolté des bactéries et des moisissures qui ont donné des images spectaculaires. Enfin, bon, spectaculaire, mais pas plus repoussante qu'un citron oublié dans un placard que vous retrouvez couvert d'une forêt verdâtre. Hein. Alors, ces images à faire vomir lui ont valu des centaines de milliers de likes sur sa page Facebook, qui lui sert, d'ailleurs, depuis, à faire la promotion de savon naturel. Il n'y a pas de petit profit. Ouais, mais en fait, bien sûr, la question que vous allez me poser, c'est est-ce que c'est dangereux?
Oui, alors
Eh ben non, pour l'immense majorité des germes en cause. Le risque de transmission des maladies par les microbes flottant dans l'air concerne surtout les rhumes et la grippe, et les toilettes ne constituent pas des zones particulièrement à risque pour attraper ces maladies. Pour tout ce qui concerne l'appareil urinaire, on ne craint rien. Sida, herpès, gonocoque, chlamydia, syphilis, ça ne s'attrape pas aux toilettes, sauf à y faire autre chose qu'uriner, bien sûr. Alors, pour les germes présents dans les selles, c'est différent. Le risque en Europe, ce sont essentiellement les gastro-entérites virales et un petit peu l'hépatita. Mais ce qui est contaminant, c'est pas le sèche-main, c'est le robinet, c'est la poignée de la porte des toilettes. Il ne faut rien toucher après s'être lavé les mains. Ouais. Alors bon, être contaminé à cause de microbes vaporisés par un sèche-main, ça reste une hypothèse sans plus, car il faut bien plus qu'un microbe isolé pour déborder notre système immunitaire. Une poignée de porte contaminée ou de la monnaie ramassée à la caisse d'une station-service peuvent déposer sur votre main 1 million de virus qui vous infecteront beaucoup plus sûrement que quand vous mangerez votre sandwich. sandwich. Alors, oui, bien sûr, la serviette en papier, c'est mieux. Sauf s'il faut manipuler un bouton pour la faire sortir.
Ah, et là,
oui.
Le danger est partout.
Et voilà. Et il n'est pas idéal non plus, c'est vrai, d'avoir un enfant qui reste le nez coincé sur le sèche-main par curiosité. Mais franchement, tout cela correspond à des risques hypothétiques et pourrait surtout détourner nos auditeurs des mesures vraiment importantes. Ne pas toucher ses yeux, ni son nez, ni sa bouche, après avoir manipulé un objet potentiellement contaminant.
Ouais. Quoi, genre une poignée de porte, par exemple, ou pas?
Oui, si vous touchez la poignée des toilettes en sortant, si vous voulez, ça, pas la peine de vous laver les mains, quoi. C'est nul.
Bah, vous m'expliquez comment vous ouvrez
à
la...
Coup de pied.
Ah, c'est ça, avec le pied. C'est bien si genre, j'essaie de vous imaginer.
Mais... la tête.
C'est ça. Merci d'être aussi pratique avec nous, Dominique Dupagne. Chronique à réécouter sur franceinter.fr. À jeudi prochain.